Alors, on est dans la série Contre-culture, Maxime l'a mentionné. Je veux juste vous rappeler le passage qui a lancé cette série-là, d'accord? Je le rappelle à chaque fois, mais c'est pour qu'on se rappelle la démarche qu'on veut faire ensemble, les questions qu'on veut se poser. C'est bon? Donc, dans Matthieu 5, versets 13 à 16, on lit, c'est Jésus qui parle, s'adresse à ses disciples, et voici ce qu'il dit. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec cette série-là, on veut se poser la question, puis c'est une question qu'on te pose au Seigneur. On demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans notre Église, dans nos vies, pour que nous apportions plus de saveur à ce monde, à la culture, au monde qui nous entoure, à notre famille. Comment est-ce qu'on peut apporter un éclairage nouveau sur le monde autour de nous à cause de l'Évangile? Ce qu'on a vu ensemble à date, on a parlé d'unité, on a parlé de service, on a parlé la semaine dernière de générosité, puis cette semaine, on parle de vérité. Parce que la vérité, c'est toute une question dans notre culture. Le rapport à la vérité, il est étrange. Puis il me semble, puis à la lumière de la parole de Dieu, il me semble que c'est évident que c'est un endroit où l'Église peut briller aussi. Il y a une grande confusion sur la vérité. Chacun veut avoir sa vérité. Avec l'ère de M. Trump, qui vient de commencer, on est rendu maintenant avec les faits alternatifs. Donc, il y a l'autre factuel. On est rendu dans la post-vérité, post-factuelle, des faits alternatifs. Mais bon, c'est un peu ironique, là. Mais en même temps, on vit à une époque où tout un chacun, c'est vraiment intéressant, l'espèce de rapport étrange, tout un chacun veut avoir sa vérité, spécialement lorsqu'on parle du domaine de la morale, moi je vais déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Lorsqu'on pense à la politique, on veut comme embarquer, mais on a beaucoup de difficultés à croire qu'on va savoir la vérité. Est-ce que c'est même possible de savoir la vérité? Lorsqu'on pense à la science, on se dit « bon, ben c'est la science qui va nous donner la vérité ». Mais en même temps, la science nous donne la vérité si elle sait absolument tout sur une question. Puis on apprend avec des nouvelles découvertes que ce qu'on croyait être vrai, peut-être pas tout à fait vrai en fin de compte. Donc c'est complexe comme rapport à la vérité à notre époque. Puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que il y a quelque chose de différent dans les rapports humains. Les gens, je crois, cherchent à être vrais dans les relations humaines. Ils s'attendent à ce qu'on puisse être vrai puis être vraiment nous-mêmes à travers les relations. Fait que c'est pas comme on veut pas la vérité, mais on se pose de toutes sortes de questions par rapport à la vérité. Puis Jésus-Christ vient. Jésus vient dans le monde et il vient pour nous faire connaître la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur nos cœurs, sur le cœur humain, la vérité sur l'humanité. Et nous, on est là, puis on a ce message-là, puis on veut apporter ça dans le monde. On va réfléchir ensemble là-dessus ce matin. Prions ensemble. Père éternel, on veut ce matin t'adorer, te rendre grâce parce que tu as envoyé ton Fils qui est venu des cieux sur la terre, Seigneur. T'as envoyé ton Fils qui est venu nous parler avec vérité. Nous parler de toi comme personne n'avait jamais parlé de toi. Nous parler de nous, de nos cœurs, de nos rapports les uns avec les autres comme personne ne l'avait fait auparavant. Et Père, on veut te remercier parce que tu nous as fait connaître que Jésus est la vérité. Et ça, c'est un privilège. Comme chrétien, on ne prend pas ça pour quelque chose de léger, sans conséquence. On croit, Seigneur, que c'est toi qui t'es révélé à nous pour vraiment qu'on soit convaincu que Jésus-Christ est celui qu'il disait être. Et Seigneur, je veux te remercier pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies comme chrétiens à changer notre rapport avec la vérité. Ça vient changer notre manière de nous voir nous-mêmes, de te parler à toi, de nous parler entre nous, mais il y a encore du travail à faire, Seigneur. Puis on a besoin aussi que tu nous enseignes comment apporter cette vérité-là dans le monde autour de nous, comment l'incarner, comment apporter le message. Alors ce matin, Père, je te prie de venir nous parler avec vérité puis avec amour. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, afin qu'on voit comment on peut apporter une saveur différente au monde. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On peut tourner dans Éphésiens, on va écouter la parole de Dieu.
ce matin se trouve dans Éphésiens au chapitre 4. Je vais lire les versets 13 à 25 dans la version second 21. Éphésiens 4, versets 13 à 25, et ça parle de ce que Jésus a commencé à faire jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et de leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont égarés à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Merci Stéphane. Jésus, un jour, se trouve au temple avec ses disciples. Il est en train d'enseigner ses disciples, puis il jase avec eux, puis tout d'un coup, il y a une foule d'hommes qui arrivent. Et cette foule d'hommes-là, des scribes, des pharisiens, des enseignants, des gens réputés pour leur connaissance de la parole de Dieu, cette foule-là traîne une femme avec eux. Il la mène au milieu d'eux, la présente à Jésus et l'accuse. Ils prétendent qu'ils ont surpris cette femme-là en adultère. Je l'ai déjà mentionné souvent, étrangement, d'habitude, un adultère, ça se fait à deux. Il y a juste une femme. C'est louche. Puis il commence à presser Jésus. Il commence à dire, Moïse, dans la loi, nous dit que celui qui va être surpris en adultère doit être lapidé à mort. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que toi, tu nous dis de faire? Puis il pressait Jésus avec ça. Puis voici ce que Jésus leur dit. On trouve ça dans Jean 8, 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les hommes commencent à partir tranquillement un à un. Il n'y en a pas un qui ose lancer la pierre devant cette parole-là, puis ils commencent à se retirer puis à s'en aller un après l'autre. Finalement, la femme est seule. Jésus est là puis il est en train de dessiner quelque chose dans le sable, mais essayez pas de trouver ce qu'il est en train de dessiner. Puis Jésus s'adresse à la femme. Il se tourne vers elle. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce matin, on parle de la vérité. On parle de la vérité au milieu d'un monde confus qui ne sait pas où se situer par rapport à la vérité, chacun pour soi sa vérité. Puis Christ vient dans le monde et il vient et il apporte la vérité. Et il parle avec vérité. Puis quand la vérité sort de la bouche de Jésus, ça a une saveur particulière. Quand la vérité sort de la bouche de Jésus, ça goûte quelque chose de différent qu'une espèce de coup de poing en pleine face. Et pourtant, il dit la vérité. Il dit la vérité à ces hommes-là, qui sont arrivés en accusant une femme, mais ils n'ont personne d'autre. Peut-être que c'était un de leurs chums qui était avec cette femme-là, on ne sait pas. C'est quoi qui se passe? Puis Jésus les confronte. Il les confronte avec leur cœur. Puis ils s'en vont. Il leur parle avec vérité. Mais avec cette femme-là aussi. Il lui parle avec grâce, avec bonté, mais il lui parle avec vérité. Il dit, où sont-ils des accusateurs? Il dit, ils sont partis, ils ne sont plus là. Mais il dit, moi non plus, je te condamne pas. Mais il ajoute, va et ne pêche plus. Il lui parle avec vérité. Il n'a pas embelli la chose, il a reconnu qu'elle était probablement dans le péché, puis qu'elle devait probablement se repentir de ça. Et donc, lorsqu'on se tourne vers Jésus pour savoir c'est quoi la vérité, puis comment on apporte la vérité, on trouve toujours avec Jésus que la vérité a une saveur particulière. Il y a une saveur de bonté, de franchise, de grâce qui est présente avec lui. Et ce matin, on veut apprendre en Église à marcher dans la vérité, à parler avec vérité, à être vrais les uns avec les autres, puis à apporter la vérité dans un monde qui ne sait plus trop c'est quoi la vérité. Voici ce qu'on va voir ensemble ce matin. Apporter une saveur nouvelle au monde, c'est aussi dire la vérité. On a parlé d'unité, de service, de générosité, mais apporter une saveur nouvelle au monde, c'est aussi dire la vérité dans l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ. Alors, commençons par le début. Commençons par le début parce que pour les chrétiens, la vérité a un nom. C'est quoi? C'est Jésus-Christ. Pour les chrétiens, la vérité, ce n'est pas juste un concept. Est-ce que tu dis la vérité? Pour les chrétiens, la vérité, c'est une personne. Elle a un nom. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est Ponce Pilate qui, interrogeant Jésus, qui venait de parler de vérité, puis Ponce Pilate lance cette question-là très, très, très ironique ou sarcastique. Il lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Pour un chrétien, la réponse est quoi? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Elle se tient devant toi. Si Jésus avait décidé de répondre à Ponce Pilate, à ce moment-là, il aurait dit, la vérité se tient devant toi. Et il aurait été confus parce qu'il voyait très bien que cet homme-là était innocent contrairement aux accusations qu'on portait contre lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que Jésus est la vérité? Est-ce qu'on veut dire qu'il nous a montré le bon chemin vers Dieu, donc qu'il nous a dit la vérité, définitivement? Plus que ça, par exemple, beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on veut dire que le christianisme nous fait connaître la vérité sur Dieu? Et déjà, ça, dans notre culture, Jésus-Christ, le christianisme nous fait connaître la vérité sur Dieu, pas les autres? Oui, c'est ça qu'on est en train de dire, mais plus que ça encore. Est-ce qu'on veut dire que Jésus dit toujours la vérité lorsqu'il parle? Absolument, c'est clair. Mais plus que ça encore. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que Jésus est la vérité? Mais dans Jean 1, les versets 1 à 4, Jean commence son évangile en commençant, pas par la naissance de Jésus, mais par le commencement du monde. Parce que pour lui, comprendre qui est Jésus, ça nous demande de comprendre qui est Jésus ou qui est le Christ dans l'origine même du monde. Et donc, dans son prologue, son introduction, voici ce qu'on lit. « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Évangile de Jean, un peu plus loin, au verset 14, je vais le lire tout à l'heure, on apprend que la parole s'est faite chair, elle habitait au milieu de nous. C'est super clair qu'il est en train de parler de Jésus de Nazareth, d'accord? Mais avant d'être Jésus, il existait déjà, c'était la parole qui était auprès de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on parle du Fils ici. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole, par le Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsqu'on dit que Jésus est la vérité, c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de le dire. bien avant de parler du fait que Jésus dit la vérité, bien avant de parler du fait que Jésus est le seul chemin vers Dieu, Jésus-Christ est beaucoup plus que ça. Jean nous dit que le Christ était là avant que l'univers existe. Quand vous annoncez Jésus, quand vous parlez de lui à des amis, vous ne parlez pas seulement de celui qui s'est incarné, qui est devenu un homme. Vous parlez de celui qui était là avant l'origine de l'univers. Ça veut dire que le Christ était là pour concevoir, par exemple, toutes les lois de la physique. Parce que Jean vient de nous dire que tout ce qui a été fait par elle, par la parole. Et donc, le Christ, avant de devenir Jésus de Nazareth, était là puis a conçu toutes les lois de la mathématique. C'est lui qui a pensé la beauté de l'univers. C'est à travers lui que son Père a créé toutes choses. Et donc, lorsqu'on dit que Jésus est la vérité, vous comprenez qu'on est en train de dire que ce n'est pas juste qu'il nous apporte une vérité. Ce n'est pas juste qu'il nous révèle des choses vraies. C'est qu'il est l'origine même de la vie. Dans le mystère de la Sainte Trinité, Dieu le Père a décidé qu'il créerait toutes choses à travers son Fils, par son Fils. C'est comme ça qu'il a décidé que ça allait se faire. Et donc, c'est le Fils lui-même qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'origine de la vie. C'est lui qui est à l'origine de l'univers. C'est lui qui est à l'origine de ma biologie, de la nature. C'est lui qui est à l'origine de la beauté des choses dans l'univers. C'est lui qui a organisé le système solaire et tout l'univers qu'on contemple. Alors, pour les chrétiens, lorsqu'on dit que Jésus est la vérité, c'est ça qu'on a à l'esprit. C'est ça qu'on a à l'esprit. Si Jésus est à l'origine de l'univers, si c'est lui qui a conçu toutes choses, si c'est par lui que toutes choses ont été créées, c'est lui que je veux donner aux gens. C'est lui que je veux apporter aux gens. Ce qui est extraordinaire et fascinant avec la personne de Christ, c'est qu'il n'est pas resté au ciel. Il s'est incarné. Et vous allez voir que dans notre réflexion d'aujourd'hui sur la question de la vérité, ça devient super important. On lit un petit peu plus loin au verset 14, justement. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors pour les chrétiens, la vérité, c'est une personne. Cette personne-là, c'est non seulement un esprit, c'est quelqu'un qui s'est incarné, qui est venu sur la terre. Et donc, lorsqu'elle s'est incarnée, elle est devenue un homme, elle est devenue perceptible, elle est devenue tangible pour nous. La vérité a pris forme devant nous. On a pu l'observer, on a pu l'écouter. Et Jean, qui l'a côtoyé, il a vécu avec lui pendant 3 ans, il l'entendait parler. Il était là probablement lorsque Jésus a fait la réplique à ces hommes-là, puis qui a dit à cette femme, « Va, je te condamne pas, ne pêche plus. » Jean était probablement là en train de regarder tout ça, puisqu'il rapporte. Et le constat que Jean fait, c'est on a contemplé sa gloire parce qu'il est venu avec grâce et avec vérité. Avec grâce et avec vérité. Retenez ces deux mots-là. Avec grâce et avec vérité. La vérité dans la bouche de Jésus a toujours une saveur particulière, une saveur de grâce, une saveur de bonté. Et si c'est vrai qu'un jour Christ va revenir puis va juger les hommes, et si c'est vrai que Christ pouvait confronter des pharisiens en les traitant d'hypocrites, tout ce qu'il attendait, c'est leur repentance, parce que un pécheur qui sait qu'il est pécheur, Christ accueille toujours avec grâce et avec vérité. Grâce et vérité. Côtoyer Jésus, vivre avec lui, le regarder parler, le regarder agir, c'était ça que tu expérimentais, grâce et vérité, constamment. Et nous, on est appelés comme Église à apporter Jésus-Christ. Dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, on est appelés à incarner, à représenter, à imiter la personne de Christ. Lorsqu'on est en relation avec les gens du monde à l'extérieur, on est appelé à apporter Jésus-Christ, à annoncer Jésus-Christ. C'est ça, non? Jésus-Christ, la vérité dans sa bouche avait toujours la saveur de la bonté, de la grâce. Même lorsqu'il confrontait, il y avait la possibilité de se repentir. Et toujours, il accueillait celui qui était repentant, celui qui se reconnaissait pécheur. La grâce et la vérité ont un nom, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec ça personnellement? Je veux passer du temps avec lui. Je veux passer du temps avec lui. Quand je me lève le matin ou le soir, puis vous avez votre moment, puis que j'ouvre la parole, puis je m'en vais dans la prière, que je sois dans la Genèse ou dans l'Apocalypse ou dans les Évangiles, je suis en train de passer du temps avec Jésus. Parce que c'est lui la parole. Et donc, toute parole qu'on trouve dans les Écritures, c'est lui qui est derrière ça. Et je veux passer du temps avec lui pour apprendre à recevoir la vérité et à recevoir la grâce. Pour apprendre à être transformé moi-même. Pour apporter la vérité, mais le faire avec grâce, avec bonté. Je veux passer du temps avec Jésus pour être transformé progressivement et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que dans sa bouche, la vérité avait toujours cette saveur-là, de grâce, de bonté. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu ensemble qu'est-ce que ça voulait dire, le mot « grâce ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est, en anglais, on pourrait traduire par « kindness », donc c'est de la bonté. Quand Dieu nous fait grâce ou quand on a la faveur de la grâce de Dieu, c'est que Dieu déverse sa bonté sur nous. Et donc, chez Jésus, la vérité et la grâce vont de pair. Puis ceux qui l'ont vu vivre, qui l'ont vu marcher, ont dit, il est venu plein de grâce et de vérité. Ça débordait de sa personne. Je veux pas seulement être une personne qui dit la vérité, je veux faire comme Jésus, je veux offrir ma vie aux gens. C'est ça que ça veut dire aussi, hein? Jésus aurait pu arriver puis dire, regardez, je vais vous expliquer tout ce que vous comprenez pas sur Dieu. Mais quand tu côtoyais Jésus, tu côtoyais un être humain qui se livrait à toi, qui s'offrait à toi. Il y avait de la difficulté à prendre une pause tellement qu'il s'offrait aux gens. Il y avait de la difficulté à se retirer. Les gens étaient constamment après lui. Je ne suis pas Jésus, vous n'êtes pas Jésus, c'est correct. On a besoin d'un break, peut-être plus que Jésus. Mais je ne veux pas juste dire la vérité aux gens. Je veux, moi, comme personne, le vivre puis m'offrir aux gens, être présent avec eux. Être là avec eux pour leur apporter la vérité, comme Jésus le faisait. Dieu ne nous a pas envoyé des prophètes lorsque Jésus est venu. Il l'avait fait dans le passé. Il nous a envoyé son Fils, rempli de grâce et de vérité. Et donc, je ne veux pas simplement être une personne qui dit la vérité, je veux aussi partager ma vie avec les gens, être là, être présent, afin qu'ils le voient dans ma vie. Je veux que la vérité soit incarnée dans ma vie. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité s'est incarnée, elle s'est faite homme. Elle a habité au milieu de nous. Puis on l'a vu marcher, puis on lit son histoire, puis on voit comment il vivait. Je veux surtout être plein de grâce et de vérité. Grâce et vérité. Jésus-Christ est venu apporter la vérité pour nous libérer. La vérité qui libère. Le début de l'Évangile de Jean, c'est très, très clair. Jésus-Christ est la lumière, il est la vie, et il vient pour libérer les hommes. Puis là, tout de suite, dès le début, alors que Jean a écrit ça après la crucifixion, après la résurrection, il a vu la réaction, l'attitude des gens face à Jésus. Il a vu comment les gens ont pu réagir de manière réfractaire et ont été fermés à Jésus-Christ. Dans Jean 1, 5, voici ce que Jean dit. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Pourquoi est-ce que les hommes craignent la vérité, craignent la lumière? Pourquoi est-ce qu'on a peur de la lumière, de la vérité que Dieu peut apporter dans nos vies? Quelques idées. Parce que la vérité expose notre cœur? Peut-être. Parce que la vérité montre notre péché, expose nos idoles, les choses qu'on aime plus que Dieu ou plus que les gens qu'on devrait aimer autour de nous puis qui prennent la place dans nos vies. Peut-être parce que la vérité me demande de changer, me demanderait de me remettre en question, de sortir de ma zone de confort. Peut-être parce que accepter la vérité, ce serait accepter que Dieu va venir me diriger. Pourquoi est-ce que les hommes ont si peur de la vérité? Puis d'un autre côté, comme chrétien, on peut se poser la question suivante en plus. Pourquoi est-ce que nous avons peur souvent de dire la vérité? alors que j'ai la vérité dans la parole? Pourquoi souvent on a peur de dire la vérité? Peut-être qu'on a peur des réactions hostiles. Peut-être qu'on est tenté, lorsqu'on veut dire la vérité, de la diluer un peu pour que ce soit moins dérangeant, puis que ça fatigue moins le monde autour de nous, puis qu'on se sente un peu moins rejeté, puis bon, on essaye. Peut-être qu'on se dit, ben, je suis qui, moi, pour dire la vérité? Est-ce que j'ai le droit, moi, de dire la vérité? Je veux dire, je connais mon cœur comme chrétien tous les jours. Je suis le plus grand des pécheurs. Amen. Bonjour, je m'appelle Yannick Étier. Je suis le plus grand des pécheurs. Bonjour, Yannick Étier. C'est correct. Vous n'êtes jamais allé dans l'erreur, c'est bon. C'est juste pour savoir s'il y en avait ici qui allaient dans l'erreur. Les hommes ont peur de la vérité. On a peur de ça, c'est dérangeant. Puis quand quelqu'un vient nous voir pour nous apporter la vérité, même s'il le fait avec grâce, c'est dérangeant. Puis pourtant, les Écritures nous disent que la vérité rend libre. La vérité rend libre. La vérité libère. Ta famille autour de toi, tes collègues de travail, ton cœur à toi, tes enfants ont besoin de la vérité parce que la vérité affranchit, elle libère. Ils ont besoin de Jésus-Christ et de ses enseignements. Jésus dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Puis il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, s'il vous libère, vous serez réellement libre. » Verset 31-32, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole de Christ libère le cœur qui est esclave du péché. Elle le fait lorsque je me convertis, puis elle le fait à tous les jours quand la parole de Dieu entre dans mon cœur, puis je laisse l'Esprit Saint venir l'appliquer dans mon cœur. Elle vient me libérer. Lorsque mon frère, ma sœur dans l'Église, lorsque mon épouse vient me voir, puis elle me dit, « Yannick, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai une vérité à t'apporter peut-être. Peut-être que Dieu veut te troubler puis te remettre en question. » La vérité libère, affranchit. La vérité qui vient de Christ, qui vient de sa parole, qui est selon ses enseignements, évidemment. La parole de Christ, la parole de Dieu affranchit. Encore une fois, c'est la grâce. Grâce et vérité. Dieu veut nous libérer. Il n'apporte pas la vérité pour nous détruire. Dieu ne nous apporte pas la vérité pour nous pulvériser en nous disant, tu vaux rien. Regarde qui t'es. Regarde qu'est-ce que t'as fait. Regarde, t'es pas bon. C'est pas ça que Dieu fait avec la vérité. Il apporte la vérité pour nous libérer. Pour nous rendre libres, vraiment libres. La vérité affranchit grâce et vérité. Le but, c'est la grâce. Le but, c'est de nous libérer. On annonce Jésus-Christ à nos amis parce que c'est la vérité qui les rendra libres. C'est pour ça qu'on annonce l'Évangile. Peut-être que la réaction ne sera pas bonne, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que je vais être tenté de me fermer la boîte puis plus oser ouvrir la parole, mais c'est cette vérité-là qui va les affranchir, qui va les rendre libres. On annonce l'Évangile à cause de ça. Comme chrétiens, on ose partager notre point de vue à nos collègues de travail qui ont besoin d'entendre la vérité. On le fait avec grâce, on le fait avec humilité, mais on ouvre la bouche pour dire ça fait pas vraiment de sens selon moi ce qu'on est en train de dire, par exemple, de critiquer tout le temps les autorités. Puis voici ce que Dieu nous enseigne à faire, c'est d'être lucide puis de prier pour eux. D'avoir une attitude de respect, mais prier pour eux parce qu'ils sont aussi corrompus que toi puis moi. Nous devons nous rappeler aussi que c'est l'Évangile de Jésus-Christ qui libère. Fait que des fois, il y a des chrétiens qui deviennent les défenseurs, les porteurs de la vérité. Eux autres, ils disent la vérité. Et ils sont plutôt des gens qui engagent des débats. Et ce que Jésus nous rappelle dans Jean 8, c'est que c'est lui essentiellement qui est la vérité. Et donc, si je veux être celui qui apporte la vérité à la maison, si je veux être celui qui apporte la vérité dans des conversations, si je veux être celui qui a toujours la parole de Dieu sur le bout de la langue, je veux m'assurer que la vérité que j'apporte le plus souvent, c'est Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Amen? C'est ça que je veux amener le plus souvent. Ah, bien sûr, les Écritures me donnent beaucoup de discernement, n'est-ce pas? Je peux regarder le monde, la culture, la juger, puis dire, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est un péché, je sais pourquoi. Regarde, les Écritures sont claires. Je pense qu'il te manque l'Évangile, mon ami. Je pense qu'il te manque l'Évangile. Grâce et vérité. Et donc, si je suis celui qui a le courage d'apporter la vérité, je veux m'assurer que la vérité que j'apporte le plus souvent, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque je fais ça, je suis capable de tout dire. Je peux parler de l'enfer, je peux parler du jugement dernier, je peux parler du fait que le péché est là, que le monde est corrompu par le péché. Je peux parler de toutes ces choses-là. Mais je vais définitivement parler de l'amour de Dieu. Parler de la grâce. Grâce et vérité. Grâce et vérité. Et cette grâce et cette vérité qui libère deviennent la manière dont nous nous parlons dans l'Église. Ça devient notre manière d'interagir les uns avec les autres. Dire la vérité dans l'amour. Alors, tournez avec moi maintenant dans Éphésiens 4. On va prendre quelques minutes ensemble pour voir comment ça s'incarne, ça, comment ça vient s'appliquer dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Regardez le verset 15. « Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et le contexte, c'est le contexte de l'enseignement. Dieu donne des enseignants à l'Église qui vont instruire, qui vont conduire, qui vont enseigner la vérité. Et l'idée, l'objectif de ça, c'est que nous soyons en train de grandir ensemble. Qu'on soit en train de grandir ensemble. Et qu'on en vienne à dire, à professer, à parler, à dire constamment, voir sur nos lèvres, la vérité dans l'amour. Constamment. Parce que c'est ça qui va nous édifier les uns les autres. Un petit peu plus loin, au verset 20, voici ce qu'il dit. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Puis au verset 25, il dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Professant la vérité dans l'amour, renoncez aux mensonges et parlez selon la vérité à votre prochain. » Il y a deux aspects dans ça. Renoncer aux mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit disparaître dans ma manière d'apporter la vérité, de parler, de communiquer avec les gens. Il y a quelque chose qui doit être retranché, qui doit disparaître complètement. Parce qu'on est tenté de mentir. Je vous demanderai pas qui est menteur ici. Vous seriez obligé de tous lever la main, puis ceux qui lèveraient pas la main nous montraient qu'ils sont les seuls vrais menteurs ici. Et je vais vous éviter ça. Je vais juste vous éviter ce petit malaise-là, d'accord? C'est tellement facile de mentir. Si tu dis un petit mensonge blanc, là, juste, t'as-tu fait ça? Je sais que je vais avoir le temps de le faire avant qu'il voit vraiment que je ne l'ai pas fait. Fait que, oh, c'est en route. T'as rien commencé pantoute. C'est en route, là, ça s'en vient, tu sais. C'est tellement tentant de mentir. Pour pas avoir de l'air fou. Je vous dis, des fois, je parle. Puis là, je m'entends parler, puis je dis, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. C'est pathétique. C'est juste que j'ai embelli l'histoire un petit peu. Elle était un peu plus belle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ment? Pour mieux paraître, pour pas offenser, pour pas décevoir, pour cacher un péché dans notre vie. Paul nous dit, c'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Renoncez aux mensonges. Renoncez aux mensonges. Parlez avec vérité, parce que la vérité va vous affranchir, elle va vous libérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Ça veut dire que je choisis de confesser mes fautes à un frère, à une sœur, plutôt que de garder ça pour moi puis donner l'impression que tout va bien quand tout va mal. Ça veut dire que je prends le temps de réfléchir soigneusement avant de parler, à savoir si je dis la vérité puis si je le fais comme il faut avec humilité. Puis ce qui me frappe dans ce passage-là, c'est, à la lumière de toute cette étude-là, je me suis dit, la vérité sans l'amour, c'est jamais la vérité de Dieu. Est-ce que vous pouvez retenir ça? Moi, je pense que les gens qui me connaissent bien diraient que je suis un brillant argumentateur. Je peux faire ça souvent sans amour. Mais la vérité, sans amour, c'est jamais une vérité de Dieu. Jamais. Notre motif pour dire la vérité doit être l'amour pour les gens. J'ai bien aimé cette citation de Vernon Pierre qui dit « La vérité n'est pas une bataille qui se gagne uniquement à coups d'arguments, c'est une bataille qui se gagne en vivant une vie meilleure. » Et donc, je peux dire la vérité, je dois dire la vérité, mais les gens qui me voient vivre vont déterminer s'il y a de l'amour là-dedans ou non. Ceux qui me côtoient. Et je vous avoue, cette semaine, je me remettais en question, je cherchais la face de Dieu. Pour réfléchir ensemble, pensez à ça. Qu'est-ce que ça veut dire de dire la vérité dans l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Je suis sûr que tu es capable de penser assez rapidement à quelqu'un qui n'a pas fait ça envers toi, qui est arrivé et qui t'a peut-être dit la vérité, mais tableau, qu'il n'y avait pas d'amour là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dire la vérité dans l'amour? Professant la vérité dans l'amour. Renoncer au mensonge, dire la vérité dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand est-ce que c'est le plus difficile à faire? Parce que dire la vérité dans l'amour, ça va façonner à la fois ce que je dis puis la manière que je le dis. Alors, quand est-ce que c'est le plus difficile de dire la vérité, mais dans l'amour? Quand est-ce que c'est difficile, ça? Si on apprend comme Église à grandir, puis à se dire les uns les autres, la vérité lorsqu'on a à se parler, lorsqu'on a à partager ce qui se passe dans notre vie, lorsqu'on a à aborder quelqu'un pour dire, regarde, je veux te parler de quelque chose qui me semble que je vois dans ton cœur, dans ta vie. Voici ce qu'on va apprendre à faire ensemble. On va réfléchir sérieusement dans la prière sur la manière et le moment pour dire la vérité. Pour dire la vérité à quelqu'un parce que notre but, c'est de l'aider à grandir à la ressemblance de Christ. Grâce et vérité. La vérité a un nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un concept. Et ce n'est pas simplement le Christ, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il s'est incarné, il a vécu comme un homme. Et ceux qui l'ont côtoyé ont entendu la vérité, mais ils ont ressenti la vérité dans leur relation avec lui. Parce qu'ils ont ressenti l'amour et la grâce. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Comme Église, à quoi est-ce que Dieu nous appelle pour apporter une saveur nouvelle au monde autour de nous? Comment est-ce que Dieu nous appelle à apporter une lumière nouvelle dans notre foyer avec la vérité? Parce qu'il faut dire la vérité. Parce que le monde a besoin d'entendre la vérité. Parce que j'ai besoin que les gens autour de moi me disent la vérité. Et les gens autour de moi ont besoin que je leur apporte la vérité. Comment est-ce que ça va être différent? Comment est-ce que Dieu veut travailler dans mon cœur, dans ma vie, pour qu'il y ait vraiment grâce et vérité? Et vous savez quoi? Souvent, on crée une distance entre Jésus et nous, puis on dit, « Oui, mais ça, c'est Jésus. C'est vrai, c'est juste lui qui peut mourir sur la croix. Amen. » Mais ça devient une excuse, une défaite pour dire, « Ce train va loin, le Seigneur va faire quelque chose dans ma vie. » Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et je l'ai dit la semaine dernière, l'exhortation de Paul, c'est que nous excellions en bonnes œuvres. Puis je l'ai mentionné, ce n'est pas dans le sens de excellence comme on l'entendrait, c'est dans le sens de surabondance. Et je crois comme Église que Dieu veut nous faire grandir encore beaucoup. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de place pour s'améliorer. Et que on déborde, qu'on soit rempli, qu'on soit plein de grâce et de vérité. Pour nos collègues de travail, pour nos amis, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour les frères et sœurs dans l'Église. Dieu veut nous faire grandir. Parce que le monde qui nous entoure a besoin de recevoir la grâce et la vérité qu'on trouve en Jésus-Christ. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Dieu nous appelle à apporter une saveur nouvelle puis à dire la vérité dans l'amour. Je vous invite cette semaine à vous asseoir en couple, à vous asseoir avec un frère, une sœur dans l'Église. Je l'ai dit des fois aussi, si ton meilleur ami au bureau, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, Vous savez que ces gens-là sont aussi intelligents que nous, hein? Ils sont pas moins brillants que toi puis moi. Puis des fois, ils sont comme à l'extérieur de tout notre jargon, puis ça pourrait être un super bel exercice d'aller t'asseoir avec un ami au travail puis dire, moi, comme chrétien, là, je suis supposé être quelqu'un qui apporte la vérité, mais avec amour. Et c'est peut-être le mot grâce, là, c'est peut-être confus pour eux. Je suis supposé être quelqu'un qui apporte généralement la vérité et toujours avec amour. Est-ce que c'est ça que tu vois chez moi? C'est ça ton expérience avec moi? On pourrait faire des belles conversations, ça. Mais en petit groupe aussi, en groupe de quartier, ayez cette discussion-là pour vous poser la question, est-ce que c'est ça qu'on vit ensemble, grâce et vérité? Comment est-ce qu'on peut grandir dans ce domaine-là ensemble? Et comment est-ce qu'en Église, on est appelé à apporter ça au monde? Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu apporter la vérité parce qu'il était la vérité. Et il est remonté au ciel, mais il nous a donné son esprit qui habite en nous. Cet esprit-là est tout puissant. Christ a toute la puissance du monde pour nous transformer, pour nous façonner à l'image de Christ. Et il veut nous faire grandir pour qu'on ouvre la bouche avec un cœur aimant. Que chaque fois que je suis en train d'apporter la vérité, ce soit motivé par l'amour que je suis en train de le faire. Et il va le faire dans l'Église de l'Espoir. Il est en train de le faire, il va continuer cette œuvre-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer parce que tu es la vérité. La vérité pour moi, Seigneur, à partir du moment où je t'ai connu, ce n'est pas simplement un concept, une notion, une idée. C'est avant tout une personne. Et nous avons connu, Seigneur, que tu nous as fait connaître la vérité sur Dieu, la vérité sur nos cœurs, la vérité sur la destinée de l'homme, la vérité sur les relations entre hommes et femmes, entre frères et sœurs, entre nous, avec des amis. Seigneur, tu nous as fait connaître ta vérité. Je prie de nous faire grandir comme Église. Seigneur, on te prie ce matin, viens nous faire grandir afin que nous apportions la vérité avec grâce. Donne-nous le courage de dire, de parler, d'ouvrir la bouche, Seigneur, et de toujours le faire avec amour, avec grâce, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.